Alors, dans 1 Corinthiens 11, on a lu ce matin le chapitre au complet. Pour s'immerser dans ce passage des Écritures, s'immerger. Et là, je vais juste lire les versets 3 et 4 pour s'introduire. On va en lire à travers le message. Mais j'aimerais qu'on s'introduise avec ça, puis je vais vous partager ce matin ce que j'ai à cœur sur ce passage des Écritures à la lumière du thème. Ah, il y a quelqu'un qui a changé le... Merci. Je ne sais pas c'est qui a changé le... Des fois, on l'oublie. Hein? C'est bien Christ, notre sanctification, c'est le mois de juin. Christ, notre sanctification, c'est le thème du mois de juin. Et donc, on lit dans les versets 3 et 4 de 2 Corinthiens 11. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Seigneur, on te demande que tu ouvres nos yeux à ce passage d'Écriture, que tu ouvres nos cœurs, que tu nous transformes, Seigneur, par ta grâce, et on sait que tu es le Dieu vivant qui prend ta parole vivante pour faire ton œuvre de vie, de réconciliation. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore réconcilié par la croix de Christ, qu'il voit aujourd'hui que tu es vivant et que tu es le seul par lequel on peut être réconcilié avec Dieu. Et Seigneur, on te prie que tu puisses œuvrer dans ton peuple, tes enfants réunis ici, que nous avancions par la foi et par Christ notre vie, Christ notre sanctification. On te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Vous remarquez que dans le verset 4, il y a trois choses qui sont distinctes, qui sont précédées de l'expression « autre ». Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Et ce n'est pas secondaire. Ces choses sont fondamentales à notre salut, mais aussi à notre sanctification, les deux. Et c'est là toute la question de la vie chrétienne, c'est Jésus seul. On est sauvé par Jésus seul, par la foi seule. C'est par la grâce seule, c'est les grands... les fameuses phrases de la Réforme, là. Par la grâce seule, là, je ne sais pas dans quel ordre nécessairement il les disait, là. Et tout ça, pour la gloire de Dieu seul, les Écritures seules, il y en a cinq. Les cinq, sola gratia, sola Christos, sola... fides, la foi, sola scriptura, puis sola deo gloria, glorie, gloria. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne va pas s'enfarger dans notre latin ce matin. Alors, donc Jésus seul, et non pas Jésus plus, mais remarquez que dans notre texte, on a vu au verset 3, l'agent ici qui amène la tromperie, c'est le serpent. Mais remarquez aussi au verset 5, « Or, j'estime que je n'étais inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » Et remarquez aussi au verset 13, « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc on voit que l'agent du verset 3 se sent des autres agents dans les autres versets. Dans le fond, ils travaillent tous pour la même cause. Verset 15, « Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Donc, il y a un agent de propagation de ces autres, de ces alternatives au Jésus biblique, à l'Esprit du Dieu vivant, à l'Évangile éternel. Et ces agents-là, ont toujours quelque chose en commun. Là, on parle, là, ça fait 2000 ans que ce texte-là a été écrit, grosso modo. Mais encore de nos jours, le point commun des déviations doctrinales, quand on regarde les sectes, les mouvements chrétiens ou non chrétiens, s'attaquent toujours à la personne et à l'œuvre de Christ, de qui Jésus est selon les Écritures. Et savez-vous, ce n'est pas neutre. On ne reste pas sur un point neutre Des fois, on peut peut-être penser, ah ben moi, je suis pas décidé, je reste sur le neutre. Vous savez, on va pas, si on n'avance pas, on reste pas sur le neutre longtemps, on va se mettre à reculer. Et on va s'égarer. Parce que si le Christ des Écritures, son œuvre, n'est pas embrassé, accepté, ça va produire éventuellement un autre évangile qui va aboutir à un autre esprit dans la personne qui l'embrasse, puis dans les églises qui vont l'embrasser, ça va chasser l'Esprit de Dieu qui va être attristé, qui va être étouffé comme ça. Et Paul parle de ça avec les Galates, qui avaient commencé avec l'évangile, mais qui s'étaient détournés. C'est dit, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit expressément, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile s'annonçant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul ouvre la lettre aux Galates avec ça dans les versets 8 et 9. Mais si c'est vrai pour le salut éternel, c'est aussi vrai pour une personne qui connaît le Seigneur Jésus et qui s'expose comme ça à un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Ça a un impact aussi sur les enfants de Dieu. C'est-à-dire que les conséquences d'écouter, d'ajouter foi à ceux qui rentrent dans l'œuvre ici du verset 3 et du verset 4 qu'on a lu, hein, de cette corruption hein, que qui amène les pensées qui se corrompent, qui se détournent de la simplicité à l'égard de Christ pour finalement amener un autre Jésus, un autre esprit, puis un autre évangile. Les conséquences de ça, d'écouter, d'ajouter foi à ça, sont graves parce qu'elles changent le fondement spirituel de la personne qui l'accepte et de l'Église qui l'accepte. Ça nous corrompt. Et quand ça dit de la simplicité qui est en Christ, il y a une version qui dit de la pureté et de la fidélité qui est en Christ. Et c'est vraiment ça l'idée ici. On veut rester dans la pureté et la fidélité à l'égard de notre Seigneur. Et j'aimerais vous dire que ce dont on parle ce matin, c'est d'actualité. Parce que il y a mille et un, c'est même sorti dans la prière ce matin, il y a mille et un apôtres par excellence de nos jours, sur les internets, puis un peu partout. Et au verset 6, Paul se compare et dit, « Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. » Donc, Paul ne voulait pas rentrer dans une compétition rhétorique, celui qui parle le mieux, qui a la meilleure... Non, puis de parler de choses au sujet de Dieu, parce que ces gens qui étaient des apôtres par excellence... Ici, Paul qui use de sarcasme, il ne connaissait pas Dieu. Il savait bien parler, mais il ne connaissait pas Dieu comme Paul le dit dans Philippiens chapitre 3. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur. Pas au sujet de Jésus, je connais plein de choses. Je le connais personnellement. Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. C'est dit, à cause de ça, là, je regarde toute chose comme une perte, parce que ça, c'est ce qui est le plus excellent, c'est ce qui est le plus grand, c'est ce qui est le plus merveilleux. Puis il poursuit en disant, je regarde, j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu qui vient par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et on voit ça dans le texte aussi qu'on a lu ce matin, comment Paul a eu part à cette souffrance en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc ces gens-là, puis tu sais, Paul, c'est pas le seul endroit où est-ce qu'il réfère à ça, des gens qui avaient l'art de parler et tout ça, mais que c'était tout vide parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils savaient tout dire les bonnes choses de la bonne façon, mais c'était pas toutes les bonnes choses, mais ils savaient comment bien s'exprimer. Mais Paul même, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il parle de ça. Il dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. » Je n'ai pas arrivé comme avec du grand grec. D'ailleurs, notre Nouveau Testament est écrit dans un grec commun, pas celui des grands philosophes puis le grand grec sophistiqué. Il dit, « Je suis allé avec vous, je parlais avec cette supériorité de langage de sagesse pour annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. On parlait de ça la semaine passée. Peut-être que si Paul était ici à l'église, on dirait « Ah, ça, c'est le petit monsieur qui est dans le fond, puis que le monde n'en font pas bien ben un coup. » Mais quand il ouvrait la bouche, par exemple, il parlait des richesses incompréhensibles de Christ, mais ça dit qu'il était même méprisable. Paul, on le verra, on dirait « Ah, ouais, c'est lui, Paul! » Non, mais c'est, je pense que... Puis Paul, ça veut dire petit en passant. Son nom a été changé. Peut-être qu'il était petit, peut-être qu'il était groubé, je sais pas. Ça dit qu'il était méprisable. Même dans la façon qu'il parlait, peut-être même que volontairement, lui qui était instruit dans les lettres, peut-être qu'il volontairement il prenait un langage plus commun pour atteindre les gens qui n'avaient pas ce langage sophistiqué des philosophes. Et il le dit... est allé, c'est ça, dans cet état-là auprès des Corinthiens. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est par la connaissance de Dieu. Il leur donnait le Dieu qu'ils connaissaient, leur partageait la vie de Christ qui l'animait. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Christ qui est la puissance de la vie. Mais ces gens-là ici qu'on voit dans le chapitre 11, parce que vraiment c'est un problème qui était très important avec l'église de Corinthe, ces gens-là égaraient les gens qui les écoutaient. Et de la même façon, on peut avoir de l'aide, on peut bénéficier de choses qu'on entend puis tout ça. Mais est-ce que ça nous aide à marcher avec Dieu, à connaître notre Dieu? Vous savez, Dieu a mis dans notre vie des vraies personnes que Dieu a placées pour nous aider, nos parents. Puis là, je parle dans le monde chrétien. Si vous êtes ici, puis vous avez des parents chrétiens, des frères et des sœurs, un pasteur, c'est à travers les relations interpersonnelles vivantes que l'Évangile se transmet d'une façon unique. Il y a quelque chose là qui est propre à tout ce qui est de l'œuvre de Dieu. Dans ce sens-là, moi je vous dis, on a vécu ça pendant un petit bout de temps, mais l'église virtuelle, le counseling impersonnel, aller voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie pour lui demander des conseils, qui est sans relation dans le fond, qu'on voit quelqu'un comme ça, c'est mieux d'avoir quelqu'un, un frère, une sœur, avec qui on frotte les coudes, we rub shoulders, là, mais je ne sais pas trop comment on dit ça en français, mais qu'on voit... qui n'a peut-être pas tous les diplômes et tout ça, mais qui, dans l'amour, a un souci, puis qui nous connaît, qui nous voit aller. Puis il y a cette relation-là. Puis la personne qui est fondée dans les Écritures, dans la simplicité à l'égard de Christ. Parce que je crois qu'on satisfait beaucoup de choses qui sont non bibliques et qui peuvent même être au point, comme au verset 4, d'amener un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Puis comprenez, là, OK, je suis pas en train de dire que je suis contre le fait d'écouter des affaires sur Internet ou tout ça, mais je suis contre l'esprit que ça peut produire si on n'est pas vigilant. Parce que souvent, ce que ça va produire, c'est des divisions, du doute et toutes sortes de mauvaises œuvres. Et je dirais spécialement la nouvelle génération qui est tellement exposée à l'Internet, qui a tellement été habituée à ça, il y a des voix de tous bords, tous côtés. Puis on a misère à se concentrer, puis écoutez ce que je vais vous dire, à faire confiance aux autorités imparfaites que Dieu a mis dans notre vie. Vous savez, les parents chrétiens, là, c'est pas une nouvelle, là, ils sont pas parfaits. Mais c'est les parents que Dieu vous a donnés. Puis c'est les parents que Dieu veut utiliser premièrement dans votre vie. C'est ça la réalité. Même dans leurs défauts puis leurs problèmes, ça aussi, ça fait partie de ce que Dieu enseigne. C'est toute l'œuvre de Dieu. Puis la clé, c'est de sticker avec ça. De penser au travers. Puis c'est là qu'on apprend les vraies leçons de la vie, les choses qu'on n'aurait pas... Parce que c'est comme ça que Dieu nous apprend. C'est dans le rough du quotidien, tu sais. Puis avec les choses parfaites qui ne marchent pas là, comme ça devrait marcher. Parce que c'est de même la vie, tu sais. Dans un monde virtuel, tout marche, tout est parfait, tout est beau. Puis là, t'as coupé ça, hey, wow, c'est donc bien super. Mais ça ne marche pas comme ça. Puis pour ça, je dis, c'est pas seulement... pas mauvais nécessairement, mais c'est pas ça la vraie vie. Ah, c'est une longue introduction, mais je vais prendre le temps de vous dire ça parce que de toute façon mes points sont plus courts, mais c'est pour ça que je pense que Satan il offre de nos jours beaucoup, comme à l'époque, l'alternative raisonnable à la foi. C'est-à-dire que la foi, pour faire confiance à Dieu, là où il m'a placé, là où il m'a planté avec les gens avec qui il m'a mis. Mais moi, ah, mais il y a cette façon-là. Tu peux faire confiance à Dieu à travers ces affaires-là que, voyons, c'était sûr, Seigneur, c'est vraiment, là. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine passée. Si ça fait tout du sens, si tout est parfait, puis que vous êtes tous capables d'expliquer ça, puis qu'il y a zéro problème, puis que ça n'accroche pas, c'est louche. Parce qu'avec Dieu, il faut, on ne s'appuie pas sur notre propre sagesse. C'est lui qu'on reconnaît dans toutes nos voies. On s'appuie sur lui qui est notre sagesse. Donc, il faut vraiment apprendre ça. Et n'est-ce pas que Satan, il faisait ça avec les apôtres. Jésus a dit, « Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. » C'est quoi qu'il pense au bout du compte quand on est éprouvé? C'est notre foi. Puis c'est quoi cribler? Satan, là, l'idée de cribler, c'est qu'il y avait le grain, qu'il y avait le bon grain, puis c'est pas l'écorce, là, mais en tout cas, je vais l'appeler l'écorce, là, l'enveloppe du grain qui se détachait. Okay, puis ça, c'est léger, c'est pas comestible. En tout cas, si on est pogné pour manger ça, on est comme le fils prodigue, là, je veux dire, notre alimentation est faible en protéines. Mais bon, donc, lorsqu'on criblait, on tirait comme ça le grain dans les airs, on battait le grain, et comme ça, on faisait ça sur une colline. A-I-R-E, okay, c'est une petite colline où est-ce que il y avait une brise, puis là, en tirant comme ça, l'enveloppe qui est légère, elle allait comme ça plus loin, puis ça faisait un tas comme ça, puis le grain qui était battu comme ça, lui, il restait toujours comme ça à la même place, il tombait, ça restait comme ça à la verticale. Et donc, il y avait la séparation du grain avec l'écorce, du bon avec l'inutile. Et savez-vous que Satan est un instrument de Dieu? Parce que Dieu fait ça dans nos vies. Il garde ce qui est bon, il enlève ce qui est inutile, en permettant à Satan de nous cribler comme le froment. Et lui-même prie pour quoi? Pour notre foi. Je pense que c'est un thème aujourd'hui qu'on va développer, parce qu'après-midi aussi, on va toucher sur la foi. La foi, là, c'est quand justement... Ça fait pas de bon sens, puis là, on a d'un bord quelque chose, puis on a d'autre bord l'autre chose, comme... Jésus, le Fils de Dieu, va mourir dans les mains des impies. Comment ça se pourrait? C'est ça ici quand Jésus dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Littéralement, dans le contexte, c'est ça qui arrivait. Voyons, Jésus, il n'arrêtait pas de leur dire « Je vais mourir dans les mains des impies. » Puis pourtant, il avait bien compris qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça ne marchait pas. La foi, c'est ce qui faisait qu'il s'accrochait malgré que ça ne faisait pas du sens. C'est ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. C'est ça que je veux qu'on aborde avec trois alternatives à la foi qui sont mauvaises et qui nous empêchent de jouir de Christ, notre sanctification unique, Jésus seul. Donc, d'abord, un autre Jésus. On a ça dans le verset 4, un autre Jésus. Si quelqu'un arrive et vous prêche un autre Jésus, c'est pas parce qu'il y a un autre Jésus. Littéralement, il y en a juste un, le Jésus de la Bible. Mais on sait, même guerre, on pourrait dire le Jésus des musulmans, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des mormons. Puis comme ça dit aussi, d'ailleurs, c'est Paul qui dit ça, il y a un seul Dieu, mais en fait, dans le monde, il y a un seul Seigneur, mais en fait, dans le monde, il y a beaucoup de Seigneurs. Puis on peut dire aussi beaucoup de Jésus. Il y en a un seul vrai, mais il y a beaucoup d'imitations. Et donc, quand on parle d'un autre Jésus, c'est des imitations. Et proclamer ou prêcher un autre Jésus, c'est la façon fondamentale de s'égarer. C'est l'hérésie qui produit toutes les autres hérésies. C'est la mère des hérésies. Regardez dans les mouvements sectaires, les hérésies, ça va toujours être par rapport à la personne et l'œuvre de Christ, comme je vous le disais en introduction. Pourquoi? Parce que le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Si on veut connaître Dieu, c'est par le Fils. Là, je viens de vous lire Hébreux 1:3. Dans la version Bible du Sommeur, qui j'aime bien ici par rapport à ce passage dans Hébreux 3. Hein, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on peut voir de la gloire de Dieu, c'est exprimé par le Seigneur Jésus-Christ. Puis tantôt aussi, notre frère a cité le verset, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né, celui qui a la prééminence dans toute la création. » Ce qu'on en connaît de Dieu, on le connaît par le Fils. Donc, Satan s'attaque spécialement à Jésus. Et je dirais là-dessus... OK, pour le salut, pour venir à Dieu par Christ, mais même pour la sanctification. Le peuple de Dieu a besoin de saisir, de croire, d'être convaincu à la centralité de la personne et de l'œuvre de Christ pour la vie chrétienne, notre union avec Christ. Ce qui est exprimé par Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce Jésus-là, c'est le Jésus qui est notre vie, qui est suffisant, c'est notre tout en tous. C'est le Jésus de la Bible auquel on doit s'attacher. Et l'attaque actuelle, la plus répandue, la plus courante, en ce moment, c'est par rapport à la suffisance de Christ. Jésus, c'est beau, mais tu as besoin de ce plus-là. Comme si Jésus n'était pas assez pour les problèmes actuels, pour le mariage dans le monde dans lequel on vit, pour la famille dans le monde hostile, moderne de 2022. Mais j'aimerais vous dire que le Jésus qu'on voit dans la Bible, il est totalement suffisant. Amen. C'est le bon berger. C'est le Jésus d'Ésaïe 40 qui console son peuple. C'est le Jésus de l'Apocalypse qui est glorieux, vainqueur. C'est Jésus de Colossiens qui a la prééminence, qui est le chef de l'Église, qui est incomparable. Et donc, où est la foi, la confiance en ce Jésus en ce moment, le Seigneur de l'Église, dans notre génération? C'est pas surprenant que Jésus a dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Et donc, c'est la première chose. Un autre Jésus, première alternative à la foi. Le deuxième élément qu'on a, c'est un autre esprit. Et là, c'est le cœur du message, sur quoi je veux m'arrêter le plus pendant le message. On apprend dans le discours de la Chambre haute, et spécialement dans ça, c'est dans Jean 13 à 17, mais spécialement dans le cœur de ce discours-là, chapitre 14 à 16, le rôle du Saint-Esprit, le Consolateur, Jésus, qui en parle beaucoup dans ces chapitres-là, il dit que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité, c'est lui qui prend ce que Jésus a enseigné, qui nous le rappelle, il élève Jésus, son œuvre, sa personne. Comparez ça maintenant à l'esprit de ce monde, à l'esprit qui est propagé, qui met en doute la parole de la Genèse à l'Apocalypse. Et je dirais spécialement la Genèse et l'Apocalypse, l'ouverture et la fermeture de la révélation de Dieu à l'homme. Si Satan discrédite ces deux livres-là, il va discréditer tout ce qu'il y a dans le milieu. L'esprit du Dieu vivant, l'esprit qui a inspiré la parole, ne va jamais faire ça, ne va jamais mettre en doute la parole, parce qu'il en est l'auteur. Il valide la parole, il suscite la foi par sa conviction. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, la parole, elle nourrit la foi. Écoutez ce que ça dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » La foi se nourrit de la parole parce qu'elle se confie, elle se repose dans ses faits et dans ses promesses. Et savez-vous que c'est pas pareil? J'ai dit fait, j'ai dit promesse. Fait, c'est quelque chose que même si tu fais quelque chose ou si tu fais rien, ça va être pareil. Savez-vous que dans mes bons, mes mauvais jours, je suis quand même, si je suis un enfant de Dieu, je suis quand même uni à lui dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection. Ça change pas, même que si je me sens vraiment pas mort au péché, vivant pour Dieu. C'est pas grave, c'est un fait, c'est accompli. Si vous êtes sauvé, vous êtes en Jésus-Christ, c'est ça la réalité. C'est un fait. Les promesses, c'est si tu fais ça, tu vas avoir ça. Ce que je sème, je le récolte. Ça, c'est des promesses. Mais tout, autant les faits que les promesses, on s'y confie, on s'y repose par la foi, que ce soit accompli, je dis ok, je l'accepte par la foi, ou que je me l'approprie comme une promesse que je vais m'approprier par la foi, c'est toujours par la foi. Et voici le point important que je veux soulever par rapport à tout ça, par rapport à un autre esprit, en contraste avec l'esprit de foi dont je viens de vous parler. Il y a un esprit de doute. je dirais même de rébellion fomentée par de l'orgueil, de l'incrédulité, dont la puissance d'influence et sa subtilité. Ça donne quelque chose comme ça. Je veux obéir à Dieu, mais... Déjà, voyez-vous, je veux obéir à Dieu, mais... Mais il ne peut pas me dire quoi faire dans ce domaine-là ou par rapport à cette question-là. Je veux, mais... L'esprit qui prévaut dans nos églises, toute génération qu'on va dire tantôt, j'ai parlé de la plus jeune génération, ils n'ont pas le monopole sur l'égarement spirituel qu'on voit dans nos églises. Je dirais qu'ils sont peut-être plus attaqués, ils s'exposent beaucoup à beaucoup de choses avec la technologie, mais ils ne sont pas les seuls, on le sait tous. L'esprit qui prévaut dans nos églises et la puissance de cet esprit, et là, on va appeler un chat, là, indépendant, orgueilleux, incrédule, rebelle. Sa force est dans sa subtilité et sa tromperie. Parce que on va pas dire, puis on va même pas penser que ça serait un esprit qui me décrit. Moi, orgueilleux, incrédule, rebelle. Non, non, quand même, exagère pas. C'est ça qui fait qu'on tombe dans le panneau, parce que on s'identifie pas à ça. Mais je vais vous donner des exemples que je pense que ça va faire qu'on peut se mettre le chapeau. Lorsque c'est le temps de décider où je recherche mon aide, mon secours, ma sagesse, souvent on dit « je vais me diriger à ma façon ». C'est la façon la plus subtile par laquelle on est trompé. Parce que, tu sais, le monde, souvent, il y a des affaires très évidentes à dire. Suis ton cœur, écoute ton cœur. Je ne connais pas grands chrétiens qui vont tomber dans quelque chose d'aussi évident que ça, n'est-ce pas? Ah, écoute ton bon petit cœur. Tu sais, on sait en tant que chrétien, mais non, notre cœur est mauvais, est tortueux au-dessus de toute chose. Non, c'est plus subtil que ça. On peut avoir un autre esprit qui nous empêche de nous soumettre, de nous humilier, de nous confier dans la parole, qui nous amène à nous détourner de la foi en suivant simplement nos propres désirs, ce que nous on veut, ce que nous on préfère. Après tout, c'est ce que je veux faire. Mais c'est pas en soumission à la parole de Dieu. Je vous lis un verset là-dessus. Que Dieu nous en fasse saisir la portée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Comment qu'on peut arriver à croire à des doctrines de démons? Ben, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est par nos propres convoitises. On est attirés et amorcés. Ça plaît à notre chair. C'est facile, c'est la voie de la facilité. C'est l'alternative raisonnable à la foi. Et souvent, ça a bien du bon sens. Ça peut être une bonne solution. On dit, ben oui, ça a vraiment du bon sens. Mais, c'est quoi le test? C'est que si c'est pas par la foi, ça va être sans vie. Pourquoi? Parce que ça ne nous donne pas accès à Dieu. La seule façon d'être agréable à Dieu, c'est par la foi. Et lorsqu'on a accès à Dieu, on a accès à la vie. Parce qu'on a beau avoir toutes les solutions, toutes les façons que le monde peut offrir pour régler nos problèmes personnels, maritaux, familiaux. S'il n'y a pas la vie de Christ, s'il n'y a pas la puissance de Dieu, c'est vain, ça ne sert à rien. J'espère que ça, on saisit, parce que c'est incroyable le nombre de livres et d'affaires qu'il y a sur 10 façons d'avoir une meilleure famille, de régler nos problèmes de couple, de ci et de ça. Puis, encore là, je ne dis pas que c'est mauvais en tant que tel, mais si c'est pas par la foi que c'est la vie de Dieu, ça ne nous conduit pas devant Dieu à nous tomber devant notre face, devant ce Dieu trois fois saint duquel on dépend, c'est vain, ça ne sert à rien. C'est un autre esprit, c'est une alternative raisonnable à la foi dont la tromperie et la subtilité est le plus grand piège. Parce que c'est raisonnable, parce que ça a du bon sens. Ça n'a pas de bon sens, on ne tomberait pas dans le piège. Et comme un esprit qui est invisible, c'est comme une odeur qui imprègne, qui remplit partout. Vous savez, si on arrive ici, puis qu'on a un problème d'égout ou quelque chose, on va tout le savoir. Personne ne va le voir, mais on va être très inconfortable. Savez-vous qu'un esprit, c'est pareil? On peut être animé d'un esprit qu'on ne voit pas, mais que tous en sont affectés. C'est une réalité de nos églises, ça, mes amis. Je pense aussi que le Seigneur a révélé ça. On ne le voyait pas, mais le Seigneur l'a fait sentir en 2020 à 2022. Un autre esprit. Qui est suffisant pour ces choses? La réponse, personne. C'est pour ça que si on persévère dans la poursuite de la mauvaise voie avec un autre Jésus, un autre esprit, ça va nous amener inévitablement à la troisième alternative de la foi, un autre évangile. Et remarquons qu'un autre évangile, c'est le fruit, c'est le produit d'un autre Jésus, d'un autre esprit, qui se répand dans les multiples évangiles alternatifs qu'on peut avoir. L'évangile de la prospérité, l'évangile de la sanctification par les œuvres, l'évangile de l'axisme, l'évangile intello, centré sur l'homme, la psychologie, c'est toutes des alternatives à la foi. Tous et chacune de ces alternatives sont des attaques sur, oui, les messagers, comme ici, ils s'attaquaient à Paul en tant que messager de l'Évangile, mais surtout, ils s'attaquent à la personne du message, à son œuvre, à Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus est le message de l'Évangile, en bout de ligne. Et c'est lui qui est le plus attaqué, c'est lui qui est la vie même de l'Évangile. On ne fait pas juste prêcher un message de l'information qu'on partage, on partage une personne. Il est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et pensez-y, le plus grand problème avec tout ce dont on a parlé ce matin, c'est que c'est une option, c'est une alternative pour remplacer, suppléer, supplémenter l'authentique. C'est les différents forfaits du Jésus plus qui remplacent le Jésus seul. Incluez ce que Paul dit là-dessus. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Dieu transforme des vies. Dieu, c'est sa vie, c'est la puissance de sa vie qui fait la différence. Quelqu'un tantôt me disait, Jésus a transformé ma vie. Oui, il y a le message, oui, il y a l'instrumentalité, mais c'est la puissance de Dieu qui fait ça dans la vie de quelqu'un. Et mes amis, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Il peut y avoir du bel emballage chrétien, il peut y avoir du beau, toutes sortes de parures, mais au bout du compte, ça ne sert à rien. Donc, devant le Dieu ce matin, qui sonde les cœurs, qui connaît toutes choses, devant le Dieu qui dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais que tout est nu et découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Devant ce Dieu ce matin, où tu peux dire que ta confiance repose? Et là, je parle d'abord à ceux qui ne sont pas sauvés. Ils peuvent avoir encore là l'apparence, mais ils n'ont pas la vie. Et là-dessus, je vous lis simplement, là, c'est clair, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est un ou l'autre. On ne peut pas être à moitié sauvé, on ne peut pas être à moitié en vie. C'est si on a le Fils, on a la vie. Si on n'a pas le Fils, on n'a pas la vie. Puis, pour l'avoir la vie, il y a une façon. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Est-ce que ta confiance repose en Jésus-Christ seul pour le salut de ton âme? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui tu peux venir à lui. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu peux aujourd'hui avoir la vie par celui qui est la vie. Et si tu es un enfant de Dieu, écoutez ce que je vais vous lire dans Jacques au chapitre 1. Comment je vais à mon Dieu, à mon Seigneur? Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il y a un autre endroit dans Jacques où est-ce que ça nous parle d'être irrésolu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous savez, et on a parlé d'irrésolu. La voie d'être irrésolu, c'est Jésus, c'est bien beau, mais j'ai besoin de quelque chose de plus. Et cette voie, c'est celle de la misère, de l'orgueil à laquelle Dieu résiste. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Notre prédicateur qu'on était voir à Laval, celui qui était là, il y a une phrase qu'il a dit à Monique qui m'a vraiment frappé, je vous l'ai dit en anglais, pour ça je vais vous la traduire. Split trust is mistrust. La confiance mitigée, c'est de la méfiance. C'est moi qui l'ai traduit de même, là. Je peux pas faire confiance à Dieu à moitié. C'est pas Jésus, OK, puis plus. Non, c'est Jésus seul. Est-ce que si Jésus est Dieu, s'il est qui révèle être, il est suffisant. Il est plus que suffisant. Est-ce qu'on le croit? Ou est-ce qu'on a un autre Jésus qui nous amène d'un autre esprit, qui nous amène éventuellement vers un autre évangile? Une alternative raisonnable à la foi. Que le monde, autant le monde non sauvé que même le monde chrétien, malheureusement, nous amène de plus en plus de nos jours. L'Église de Jésus-Christ a besoin d'hommes et de femmes chrétiens résolus, qui savent en qui ils croient. Pas juste en quoi ils croient, mais en qui ils croient. Vraiment qu'on ferait tout ici. Ah, moi, je suis en quoi je crois. Oui, mais sais-tu en qui tu crois? Paul, quand il était devant toutes les adversités, ce qui l'accrochait, c'est je sais en qui je crois. Et de ça découlait tout ça en quoi il croyait. Je crois qu'on est appelé à répondre à l'appel de Dieu qui nous veut tout entier pour lui seul. Seigneur, on te remercie de ce temps dans ta parole qui nous amène à porter les regards sur Jésus, Jésus seul. Seigneur, puisses-tu nous convaincre tous ici que tu es suffisant, suffisant pour la vie, la piété, toutes choses, nous l'avons pleinement en toi. Seigneur, il y a cette tromperie, ces subtilités qui court dans le monde chrétien, pour s'attaquer à la suffisance de Christ. C'est grave, ça détruit des vies, ça détruit des familles, ça détruit des églises. Parce que ça s'attaque à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ, le Rédempteur, celui qui est venu tout accomplir, celui qui est parfaitement suffisant. Oh Seigneur, protège-nous de cela. On veut, Seigneur, te confesser comment on peut facilement tomber là-dedans, et on est tombé là-dedans, Seigneur, de différentes façons. Protège-nous, soutiens-nous, Seigneur. Parce que c'est une tromperie. On s'en rend pas compte. Ah, mais Seigneur, que vraiment le désir de notre cœur ici, chacun, ça soit toi et toi seul. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oh Seigneur, qu'on apprenne à regarder tout le reste comme de la boue, comme étant rien en comparaison à la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez prier.